Nous poursuivons notre thème qui va bientôt toucher à sa fin. Connais-toi toi-même selon le livre de Job ou à la lumière du livre de Job. Et nous avons récité pendant des jours entiers, avant de commencer, un des versets clés de ce thème qui nous dit tout de suite que, en présence des desseins de Dieu, nous ne pouvons que nous courber. C'était le verset de Romains 11. Nous ne prétendons pas pouvoir expliquer le pourquoi des voies et des pensées de Dieu. Ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Mais nous avons conclu, et je veux croire que vous serez d'accord, que tout est de lui, tout est par lui, et tout est pour lui. Aujourd'hui, est-ce que vous allez croire cela, quelles que soient vos circonstances personnelles? Tout est de lui. Oui, il y a les hommes qui agissent, mais ça ne fait rien. Au-dessus des hommes, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur. Au-dessus de Satan, il y a le Seigneur. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est contrôlé par Dieu, qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas Satan et Dieu sur le même niveau. Le diable n'est qu'une créature. Nous n'ignorons pas ses desseins, mais il ne peut faire en réalité que ce que le Seigneur lui permet. Il vous éprouve, c'est vrai. Il vous bouleverse. Vous êtes dans le tourbillon de l'épreuve. Mais qui est-ce qui est dans le tourbillon? C'est Dieu. Dieu contrôle le tourbillon. Et quand l'heure sera venue, il vous parlera au sein de la tempête de l'épreuve. Croyez-le. Tout est de lui. Tout est par lui. Parce que nous voyons les circonstances seulement. Puis alors le monde dit, oh, pas de chance, nous n'avons pas de chance, c'est la chance, la malchance. Il n'est pas question de chance. Et j'ai en abomination ceux qui annoncent l'évangile en disant, Jésus-Christ, votre dernière chance. On dirait qu'ils n'ont pas lu l'écriture. Mais on dit tellement de choses au nom de l'écriture. On parle d'un Jésus qui n'est pas Jésus, d'un autre Jésus. On parle d'un évangile qui n'est pas l'évangile, même si on le qualifie de je ne sais trop quoi. On parle d'une vérité qui n'est pas la vérité, même si on l'appelle la pure vérité. Comprenez-vous? On met toutes sortes d'adjectifs à vérité, et ce n'est pas cela. On parle d'un Saint-Esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, qui bien souvent, hélas, est une contrefaçon, et qui discrédite l'authenticité des vrais fruits de l'Esprit. Alors faisons toujours attention, ayons du discernement, et ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Gardez ce que vous devez garder. Devenez des gens équilibrés. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Ça veut dire que Dieu qui travaille à votre bonheur se soucie de votre bonheur même quand l'épreuve est là. Douloureuse, bouleversante, incompréhensible. N'essayez pas de comprendre, parce que si vous voulez comprendre dans votre épreuve, vous ne ferez qu'obscurcir les desseins de Dieu. Et c'est ce qui était arrivé à notre Job. Il essayait de comprendre, d'expliquer le pourquoi de cette succession d'épreuves, et il obscurcissait le dessein de Dieu. Et surtout aussi, faites attention à vos amis qui se sont déplacés pour vous consoler. Et voilà, vous vous attendez à une consolation de leur part. Et ça vous fait mal, ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de trouver une motivation à votre épreuve qui n'est pas la vraie. Vous avez certainement dans votre vie quelque chose de caché. Alors Dieu vous frappe à cause de cela. Et il vous faudrait vous livrer justement à cette introspection et sortir le fond qui a causé votre épreuve. Alors, cela vous culpabilise, on vous met la tête sous l'eau alors que vous êtes déjà en train de vous noyer, on pèse sur vous. C'est quelque chose de terrible. J'espère que vous comprenez quelque chose des enseignements du livre de Job. Ça n'a pas été écrit pour nous raconter l'histoire d'un héros de l'Antiquité qui était très patient, mais ça a été écrit pour notre instruction. Et ici, nous sommes à l'école de Jésus. Nous apprenons de lui ses instructions parce que nous savons que personne ne peut nous enseigner comme lui. Et que ce ne sont pas les hautes écoles qui peuvent nous donner cette connaissance de nous-mêmes et cette connaissance face à face avec Dieu. Ce n'est pas dans les écoles égyptiennes où Moïse a eu l'occasion d'être formé. Ce n'est pas au pied de Gamaliel où Paul a été instruit que ces deux hommes ont connu la pensée du Seigneur. Moïse a été visité par Dieu derrière le désert. N'ayez pas peur de la solitude. Un matin, comme tous les autres matins, après 40 ans de ce même circuit, tout à coup il était là. Moïse, Moïse. J'ai vu, j'ai entendu. Je suis descendu. Oh, quelle chose, merveilleuse. S'il tarde, attends-le, avons-nous lu dans Job. S'il tarde, attends-le. Paul n'a pas appris au pied de Gamaliel ce qu'il a communiqué. Il dit, j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et comment, quand? Eh bien, sur le chemin de Damas, il a vu le Seigneur. Et ça a été fini pour lui. Après l'avoir vu, après l'avoir contemplé, quand il a réalisé qu'il y avait un homme dans le ciel, et que cet homme dans le ciel était le modèle de ce que nous serons, il n'a plus eu de cœur, il n'a plus d'oreille, il n'a plus de regard que pour lui. Comme Moïse, il marchait en voyant l'invisible. Alors ces deux hommes ont pu tout traverser. Fatigue, épreuve, blâme, et ils ont achevé la course dans la foi. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Est-ce que ça va vous rester, ça? C'était pour vous. Vous l'avez compris. Vous serez loin du camp. Vous serez peut-être dans un autre pays. Un jour, vous serez seul. Vous serez dans une épreuve. Et l'Esprit Saint, qui est notre mémoire, va vous dire, mais pourquoi tu t'inquiètes? C'est de lui. Pourquoi tu vois cet homme l'ennemi peut-être? Non. Au-dessus de l'ennemi, il y a le Seigneur. Et celui qui vous touche, dit le Seigneur, il touche quoi? La prunelle de son œil. Attention. C'est pas à vous défendre. Abandonnez-vous totalement, faites-lui confiance éperdument, il vous aime. Et quand vous êtes touché, quand vous souffrez, quand vous pleurez, ne pensez pas que vos larmes vont dans les Kleenex, puisqu'on ne peut plus dire les mouchoirs. Dans le camp, on a toujours une boîte de Kleenex. Et oui, dans les entretiens, Je fais aussi toujours pour avoir une boîte de Kleenex sous la main. Parce que tout à coup, on commence à pleurer. Mais il est dit, il recueille mes larmes dans ses vaisseaux. Ne sont-elles pas toutes écrites dans mon livre? Ça a du poids, les larmes. Et le Seigneur dit, j'ai vu tes larmes. Il les voit. Et même, il a mélangé ses larmes aux larmes de l'humanité. Voilà le Seigneur que nous connaissons. Tout est pour lui, mais par le chemin de la souffrance, parce qu'il nous veut conforme à son Fils bien-aimé. Mais le Père était sur son trône au déluge, au-dessus de tous nos déluges, au-dessus de toutes nos catastrophes, de toutes nos épreuves. Le Seigneur trône, au-dessus de tout. Et puis, au fond de tous nos abîmes, plus profond que nos abîmes, les bras éternels. Ce n'est jamais dans un abîme que vous tombez. Oui, un abîme appelle un autre abîme, dit l'Écriture. L'abîme de nos péchés a appelé l'abîme de sa souffrance, de sa douleur. Mais ces deux abîmes, abîme de péché, abîme de souffrance, a appelé un troisième abîme plus profond, l'abîme de son amour. Et vous ne pouvez tomber que dans l'abîme de son amour. Psaume 42. Un abîme appelle un autre abîme. À la voix de tes cataractes, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. C'était comme pour Job, hein. Une vague, puis une seconde, puis une troisième, les épreuves qui se succédaient. Et puis, une quatrième, sa maladie. Et puis, une cinquième, sa femme, qui lui dit, maudit Dieu et meurt. Après avoir perdu aussi ses enfants. Six épreuves. Puis maintenant, les amis, qui ne font que l'enfoncer encore dans sa douleur. Ce que nous avons lu maintenant et ce que nous demandons à Dieu de vous donner est d'apprendre par cœur, comme nous l'avons rappelé ce matin déjà, c'est Ésaïe 55, verset 6. Vous pouvez peut-être le lire avec moi si vous avez vos Bibles. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Eh bien, gardez cela toujours dans votre cœur. C'est tout à fait normal que les choses ne se passent pas comme vous le pensiez. Mais Dieu règne. On l'a chanté, hein. Notre Dieu règne encore. C'est lui qui règne au-dessus de toutes nos circonstances. Nous ne sommes pas menés par les circonstances. Nous sommes conduits à travers les circonstances par sa force toute puissante. Alors nous arrivons aujourd'hui à rappeler aussi ce texte du jour que je trouve tellement admirable où le psalmiste disait et j'insiste pour qu'il en soit ainsi dans cette journée. C'était au psaume 17e, où il est dit ceci. Verset 3. Que mon droit paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent la droiture, tu sondes mon cœur. Tu le visites de nuit, ou
David dit, tu as sondé mon cœur. Tu m'as visité de nuit. Est-ce que vous avez eu cette visite cette nuit? Tu m'as éprouvé au creuset. Tu n'as rien trouvé. Tu n'as rien trouvé. Le cœur maintenant est en bon état. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Il y a correspondance entre la parole et la pensée. Eh bien, que le Seigneur opère aujourd'hui. Nos chapitres sont les 38 et 39 de Job. Et je dirais que si Élihu, qui est une figure du Seigneur, a apporté à Job ce qu'on peut appeler la grâce et la vérité, parce qu'il n'a pas parlé comme les amis de Job. Il a parlé avec grâce. Il s'est approché de Job avec amour, avec tact, avec doigté. Il lui a dit qu'il était comme lui quant à Dieu, qu'il ne venait pas pour l'écraser, que sa frayeur ne le troublerait pas, que son poids ne l'accablerait pas. Il a employé la grâce. Mais en même temps, il lui a dit des vérités. Des vérités qui s'appliquaient à son état. Tandis que les amis de Job disaient peut-être des choses vraies, mais des choses vraies pour les autres, mais qui étaient fausses pour Job. C'était des paroles vraies, elles sont inspirées puisqu'elles nous ont été données, mais elles étaient mal appliquées et ces paroles faisaient la réaction du vinaigre sur du nitre. Et ce n'était pas cela que le Seigneur voulait. Élihu, lui, tout près du cœur de Dieu, a pu dire des vérités, aussi bien aux amis de Job qu'à Job lui-même. Est-ce que nous avons compris? C'est que Job, pas plus que l'apôtre Pierre, ne se connaissait. Il était juste, droit, craignait Dieu, sortirant du mal, comme l'apôtre Pierre était un homme qui pouvait être le canal d'une révélation divine. Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais en même temps, laissé à lui-même, il suivait les pensées humaines et ces pensées humaines étaient sataniques. Il ne voulait pas la croix pour son sauveur. Alors Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Et il était sûr de lui que quand tous le renieraient, lui ne le renierait pas. Il ne connaissait pas la faiblesse de la chair. Donc Job ne se connaissait pas. C'est la conclusion à laquelle nous arrivons. Et ses amis ne lui avaient pas parlé de Dieu comme il convenait. Ils avaient parlé de Dieu à Job, mais pas de la manière qu'il fallait. Alors, vous avez des amis qui vous parlent de Dieu, avec les meilleures intentions possibles. Et quand ils partent, ils vous ont fait du mal. Peut-être qu'eux disent, j'ai fait mon possible, je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai laissé la parole, et ils sont soi-disant satisfaits. Alors qu'ils devraient s'humilier, parce qu'ils sont allés d'une façon peut-être charnelle. Puis vous savez, quand on quitte un lieu où l'on a pu être employé, on le quitte sur la pointe des pieds, on le quitte dans la foi, parce que Satan aboie comme un petit chien derrière nous et ne nous rassure pas du tout sur l'issue de notre visite. Il essaye de mettre le doute dans notre cœur, de sorte que nous ne sommes jamais contents de nous-mêmes. Nous disons merci Seigneur de ce que tu m'as aidé. J'ai confiance en ta parole que j'ai semée, mais aie pitié de moi et aide-moi pour aller plus loin. Parce que de fois, on a fait l'expérience de Jérémie. Maintenant, c'est fini, je ne mentionnerai plus ton nom, je ne ferai plus mention de ton nom. Puis, Jérémie dit, mais toutefois, ta parole a été au-dedans de moi comme un feu. Je suis las de la retenir, je ne l'ai plus. Et il continue quand même, mais parce qu'il est possédé, il est empoigné par Dieu. L'amour du Seigneur l'Éternel nous étreint, nous presse. Voyez-vous, ce que les amis de Job étaient censés faire, c'est d'amener Job à se juger devant Dieu. Or, résultat de leur visite, Job se justifiait devant Dieu. Donc, ils avaient complètement échoué. Amener une âme à se juger devant Dieu, c'est le secret. De sorte qu'en Élie, nous avons vu le ministère de la grâce agir avec vraiment de la puissance. Relisez le chapitre 33 de Job, repassez-le dans votre cœur et vous verrez vraiment la puissance agissante de la grâce. Et je dis, oh si Job avait pu comprendre que tout travaillait ensemble pour son bien, comme il aurait déjà été consolé. Mais il se mettait à douter, il ne comprenait pas, puis pensait que Dieu était contre lui, que les flèches qu'il recevait, il les attribuait à Dieu, alors qu'elles venaient de qui? De Satan. Alors, il aurait pu éteindre les dards enflammés du malin par le bouclier de la foi, mais il croyait que c'était Dieu qui lui envoyait des flèches empoisonnées. Dieu n'est jamais contre vous. Alors ça, c'est définitif. Jugez la chose une fois pour toutes. Dieu n'est pas contre vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Vous n'êtes pas contre vos enfants. Vous ne partagez peut-être pas. Vous ne pouvez pas leur donner l'approbation sur ce qu'ils font. Mais même quand vous devez les corriger, intervenir, ce n'est pas parce que vous êtes contre vos enfants, mais c'est que vous êtes pour vos enfants. Et que vous avez un but, peut-être que eux ne comprennent pas les restrictions que vous leur imposez, mais vous êtes pour eux, eh bien Dieu n'est pas contre vous, jamais. Vous avez peut-être manqué, vous avez peut-être péché, si le Seigneur vous reprend, ou si, ayant bien marché, il voit que vous commencez à vous complaire en vous-même et à vous attribuer l'excellence de votre témoignage. Vous réussissez bien, vous pouvez dire « j'ai parlé à tant d'âmes aujourd'hui » et puis vous vous gargarisez de vos bonnes œuvres. Eh bien, le Seigneur dit « ça ne va pas. Moi, je veux des enfants humbles qui restent petits à leurs propres yeux et qui me donnent toute la gloire, qui ne soient pas à se louanger, à se pommader, à se caresser, mais qui m'envoient le baiser de leur amour, l'adoration, qui est le baiser que l'on donne à Dieu. » Et voyez-vous, j'étais encore bien jeune, mais enfin j'étais dans mon ministère à Lézin. J'avais fait une étude que j'ai publiée dans le petit livre « Révolté, résigné, vainqueur ». Parce que tout ce que j'ai écrit, c'est des choses qui m'ont été données parce que je vivais ces choses avec les malades. Il y avait 3000 malades dans cette station où je travaillais pendant 6 ans. Et vous savez, il faut tout le temps être renouvelé. Et puis beaucoup mouraient. Il fallait leur donner les dernières paroles, leur tenir la main, mettre notre main sous leur tête, puis les aider, ils étaient loin de leur femme, qui était peut-être en France, en Belgique, en Finlande, et bien loin de leur lieu de séjournement et de leur enterrement. Puis après, il fallait recevoir leurs épouses qui venaient pour demander comment avait fini le mari, et puis qui était reconnaissant parce que le mari avait dit qu'on s'était occupé d'eux. C'était tout un ministère, tout un travail, mais là aussi il fallait être ressourcé sans cesse. Ressourcé sans cesse. Et il y avait des gens de tous les milieux, des grands de ce monde. Je pense à un Espagnol qui était de la classe aisée en relation avec Franco, qui s'est converti, qui était dans le plus chic sanatorium de Lézun. Et sa femme s'est convertie après lui. Lui, il était athée d'abord. Puis il a trouvé le Seigneur. Il y a des choses qui sont merveilleuses, où vous voyez la puissance de la parole. Mais il faut redresser les âmes. Quand la femme est venue, elle était tellement heureuse, elle était catholique, elle avait beaucoup prié pour son mari, athée, pour qu'il vienne à la foi. Puis voilà, elle était venue à la foi. Mais il était venu à la foi non pas par un prêtre, mais par un serviteur, qui n'avait pas été consacré par un évêque. Alors elle pouvait se demander vraiment si c'était très valable, mais elle était quand même reconnaissante. Mais elle n'avait pas l'assurance de son salut. Avec toute sa piété, toute sa religion, avec toutes ses prières, avec tous les cierges qu'elle avait allumés pour la conversion de son mari. Mais moi, je ne voulais pas me moquer de ses cierges. Elle exprimait son désir de voir son mari sauvé, croyant. Mais lui, tout d'un coup, il était plus loin qu'elle, hein, dans la connaissance du Seigneur. Et alors, quand je lui ai dit, mais madame, est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Mais monsieur Racine, on ne peut pas avoir l'assurance de son salut. Il faudrait se croire meilleur que les autres. Alors, on relève le défi. Pourquoi, madame, êtes-vous, espérez-vous être sauvée? Elle me dit, j'espère être sauvée, mais je ne peux pas être sûre. Pourquoi espérez-vous être sauvée? Puis après, moi, je vous dirai pourquoi je suis sûre d'être sauvée. Parce qu'elle me disait, mais vous êtes quand même un peu prétentieux d'être sûre de votre salut. Alors, dites-moi, vous, pourquoi vous espérez? Alors elle dit, parce que je fais des bonnes œuvres, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'étais une bonne mère, je suis dans ma paroisse de Paris, le bras droit de mon curé, etc., etc. Alors, bon, je respecte tout ça, oui. Alors madame, vous espérez être sauvée en vertu de tout ce que vous avez fait. Et de tout ce que vous n'avez pas fait. Oui. Mais elle dit, mais bien sûr, quant à mes, je suis pécheresse, je le sais bien, j'ai aussi mes manquements, mais alors je me confie dans la miséricorde de Dieu. Ça fera la balance, à peu près. Alors, je lui dis, mais maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi je suis sûr d'être sauvé. Eh bien, malgré que je n'ai pas tué, pas volé, pas commis adultère, etc., eh bien, j'ai découvert dans mon cœur que j'avais tout en germe pour faire pire qu'eux. Et je me suis vu perdu, damné. Et alors je me suis écrié, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Dieu m'a parlé, et alors je lui lis l'Évangile, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, qui est quiconque, elle comprend bien, c'est vous, c'est moi, c'est tout autre, oui, n'importe qui. Croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis les versets qui affirment que nous n'avons pas simplement une espérance, mais une assurance. Et que ma confiance au sujet de mon salut ne repose pas sur ce que je suis, mais sur ce qui a été fait en Jésus. Et je prends un exemple, je dis, vous avez un fils, paraît-il, et s'il a été très gentil aujourd'hui, et que vous lui demandiez, mais mon fils, pourquoi as-tu été si gentil? Maman, c'est pour que tu me donnes du chocolat. Quelle impression est-ce que ça vous fera? oh ben je serai un peu déçu. Parce que, même parce que j'espérais qu'il m'aurait dit, c'est parce que je t'aime. Bien, c'est la même chose. Mais si votre enfant vous dit, maman, c'est parce que je t'aime, bien, sans qu'il vous ait demandé du chocolat, vous allez lui en donner. Là, elle a bien compris. Et c'est beau de voir cette eau qui monte, hein, cheville des pieds, genoux, puis après, reins, puis ensuite, on nage dans la grâce. Elle avait saisi. Et je vois aussi les larmes de son mari qui coulaient de ses yeux. Cet ami espagnol, puis je pourrais vous citer d'autres cas, un journaliste de Tchécoslovaquie dont j'ai dû faire l'incinération parce qu'on ramenait ses cendres, c'était pendant la guerre en Tchécoslovaquie. L'assister dans ses derniers moments, quand il me disait « Je sens le froid de la mort qui monte de mes pieds, le froid de la mort. » Puis, il fallait l'aider en Jésus-Christ. Lui était d'origine orthodoxe. Vous voyez, c'est pas la religion, c'est pas l'étiquette qui me conduisait. Nous néantisons tout cela. Nous voyons des âmes, les âmes que Dieu a faites. Et nous nous approchons d'elles pour être pour tous les hommes. Et ça, c'est la prière de mes parents avant ma naissance. Si nous avons un fils, c'est qu'il soit à ton service, non pas pour un groupe particulier, mais pour tous. Il ne savait pas ce qu'il demandait, comme je dis, et les souffrances que cela allait apporter. Mais leur prière a été exaucée. Et je l'en bénis. Parce que quand on est pour tous, on est plus solitaire que jamais. Que la grâce du Seigneur nous soit donnée. Et que nous puissions, s'il y en avait ici qui n'avaient pas l'assurance de leur salut, être sûrs de leur salut parce qu'ils sont décentrés d'eux-mêmes. Ils ne regardent plus à eux-mêmes, comme Job regardait à lui-même et ne connaissait pas la grâce. S'il était resté fidèle, s'il n'était pas révolté contre Dieu, c'était uniquement par la grâce de Dieu, mais il ignorait ce secours tout-puissant. Dieu l'avait gardé. Il s'attribuait cela. Il avait été fidèle et il ne savait pas que c'était la grâce de Dieu qui l'avait maintenu fidèle. Alors, je vous disais que pendant que j'étais à Lézun, j'ai écrit un petit livre, Révolté, résigné, vainqueur. Et dans le dernier chapitre, la vainqueur, j'ai pris depuis le commencement de l'écriture les textes qui nous disent constamment que si Dieu nous éprouve, c'est toujours pour notre bien. Deutéronome 8. Je t'ai humilié, je t'ai fait avoir faim afin que tu connaisses ce qui était dans ton cœur. Je t'ai humilié pour te faire du bien. À la fin, ça c'est Deutéronome 8. Puis, psaume, je vais un peu rapidement, psaume 57, c'est de nouveau la même pensée. Je crie à toi, ô Dieu très haut, qui mène tout à bonne fin pour moi. Est-ce que vous en êtes sûr? Il mène tout à bonne fin pour vous, malgré tout ce qui peut être contraire. Et puis, je m'en vais dans l'Ecclésiaste. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et prolonge ses jours, je sais que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils craignent sa face. Ne vous préoccupez pas du pécheur qui triomphe et qui a l'air de prolonger ses jours. Tout ira bien pour vous qui craignez sa face. Et puis, Ésaïe, chapitre 3, verset 10, qui vous dit, dites aux justes, que le bien lui arrivera. Puis je pourrais vous citer des textes dans Jérémie aussi. Mais revenons dans les évangiles de Jésus, Marc 7, 37, on disait, Il fait toutes choses bien, oui, il fait tout à merveille. Et arrivé à Romains 8, verset 28, toutes choses travaillent ensemble. Ce n'est pas un simple concours, mais c'est ce travail, c'est ce qui se passe dans la femme enceinte. Elle est en travail, toutes choses travaillent. Ça vous fait mal peut-être, mais ça travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors nous voici réconciliés avec tout ce qui peut nous arriver. Et ne laissez pas l'ennemi vous faire croire le contraire, que Dieu est contre vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Romains 8. Il n'a pas épargné son propre fils pour vous, alors que vous étiez des impies. Comment ne vous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une chose merveilleuse. Alors, Job, vous me direz que je mets bien du temps, hein. C'est vrai, pour arriver à mon texte. Mais c'est parce que j'essaye de réunir tout cela. Comme je vous l'ai dit, je suis un pneumatique. Et j'essaye de sentir ce que vous avez peut-être encore besoin, ce qui doit clarifier, peut-être ne serait-ce que pour une âme. Je ne parle pas pour tout le groupe, vous savez tout cela, bien sûr. Mais au moins, priez pour que les paroles que je dis et qui ne vous concernent pas, bien priez pour qu'elles fassent du bien à celui qui est concerné. C'est pas que moi qui travaille ici. Nous travaillons ensemble, c'est vrai ou c'est faux? Je sais que vous priez pour moi. Moi, je ne suis qu'une voix. Je vous appartiens. Vous êtes à moi, mais je vous appartiens. Je suis à vous. Moi, j'aime tellement ce verset. Tout est à vous. Hein. Vous êtes d'accord que tout est à nous? Et vous êtes à qui? À Christ. Et Christ est à Dieu. Alors, on ne fait plus de différence avec les hommes. On en a fini avec ces compartiments. Voilà celui-ci, voilà celui-ci. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Barnabas. Ou moi je suis de Christ, hein, les meilleurs. Ils croient qu'ils sont plus spirituels. Comme si Paul n'était pas de Christ. Nous sommes drôlement cinglés. Alors, laissons-nous corriger. Job avait demandé que le Tout-Puissant lui réponde. Vous vous souvenez, chapitre 31, verset 25. Voilà ma signature. Il a fait son document de défense, sa déclaration d'innocence, son serment d'innocence. Voilà ma signature. Et bien maintenant, que le Tout-Puissant me réponde. Puis voilà. Il a tellement entendu, il disait que Dieu ne répondait pas. Puis tout à coup, brouh, du sein du tourbillon. Ce tourbillon que j'ai essayé d'évoquer ici, sur cette première page, tout à coup du sein de la tempête, hein, comme l'œil du cyclone. Eh bien voilà, il parle du sein du tourbillon. Il répond à Job du milieu de la tempête. Mais vous voyez, il répond après qu'Élihu a préparé la voie. Élihu s'est tu. Job n'a rien eu à répondre à Élihu, alors, directement, Dieu parle. Et que dit-il? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? De qui est-il question? De Job. Au fond, Job, qui es-tu? Quand on demande à quelqu'un qui es-tu, est-ce que tu te connais toi-même? Mais qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Pour parler de moi comme tu l'as fait? Pour dire tant de choses sur moi qui donneront des idées aux hommes qui ne sont pas exactes? C'est ça qui est tragique. Vous parlez de Dieu. Voilà pourquoi je vous en supplie. N'employez pas le nom de Dieu en vain, à tort et à travers, parce que vous parlerez mal de Dieu tout en voulant faire connaître Dieu. Il y a une manière de parler de Dieu qui ne fait pas connaître. Et parler de Dieu, et vous parlez de tout autre chose. Comme le dit Karl Barth, quand on croit parler de Dieu, on parle de tout autre chose, et on ferait mieux de se taire. Laissez Dieu en vous se présenter. Vous obscurcissez mes desseins par des propos dénués de connaissances. Vous pourriez reprendre le livre de Job et suivre ce mot propos, les propos. Élihu avait encore des propos sages pour la cause de Dieu à dire à Job. Mais ce n'était pas des propos dénués de connaissances. Et alors, voyez l'humilité de Dieu, ça on reconnaît Dieu. Mets une ceinture à tes reins, comme un homme vaillant, hein, qui se prépare au combat. Vous vous souvenez que là en Orient, on était habillé avec la robe. Alors, quand on voulait vraiment marcher au combat, on mettait sa ceinture. On relevait sa robe pour avoir une marche dégagée et on la liait à la ceinture. Et quand on était au repos, on déliait la ceinture et on était plus à l'aise. Alors, mets ta ceinture à tes reins comme un homme vaillant. Non, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu va se mettre à l'école de Job, du savant Job. Est-ce que nous sommes à l'école de Jésus ou bien est-ce que nous avons dit à Jésus, écoute, toi, t'es trop petit, t'es le petit Jésus. C'est ce qu'on dit hein, aujourd'hui. On fait encore le petit Jésus. Alors reste dans la classe, c'est moi qui ferai la leçon. Alors je me mets au pupitre. Et je ferai la leçon à Jésus, le petit Jésus. Je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mais où étais-tu quand je fondais la terre? Job a dû être pris vraiment de court, parce que si vous remarquez, et vous le remarquerez, Dieu n'y a répondu à aucune de ses questions. Dieu ne prend pas la peine de répondre à toutes les questions. Je vous avais posé des questions, quelquefois on me dit, mais on vous a posé cette question, pourquoi est-ce que vous ne répondez pas tout de suite à cette question? On voudrait tout de suite que, bon, ta, 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 comme une mitrailleuse. Vous m'avez posé une question? Ta, ta, ta. Voilà la réponse. Ta, ta, ta. Mais je vous tuerais. Ces gens qui ont leur réponse toute faite, là, ils savent tout. Hein. Alors, pour toi, j'ai cette parole. Pour toi, j'ai cette parole. Pour toi, j'ai... Alors, nous sommes des spécialistes de la cure d'art ou du ministère d'aide. Attention, mes amis, ne vous prenez pas pour des spécialistes. Laissez cela à d'autres. Il y en a, c'est vrai, des spécialistes. Et nous bénissons ceux qui, théologiens, versés dans les langues originales, nous ont donné Job. Mais ça a été terrible pour eux. Il y avait tellement d'obscurité, et il y en a encore tellement. De fixer un texte qui nous communique la pensée de Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le, si tu le sais, avec ton intelligence. Maintenant, vous savez ce que c'est que l'intelligence? C'est se retirer du mal. Hein? Déclare-le, si tu le sais, avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Mais souvenez-vous que c'est un langage poétique. Hein? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Vous voyez que tout a été créé selon un plan. Dieu est un sage architecte. Il n'a pas fait cela dans un coup de tête. Il a tout créé selon un plan parfait. Et vous voyez dans la nature, dans les petites choses comme dans les grandes, nous sommes émerveilleux. Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Il parle du monde comme d'un édifice, mais vous n'allez pas dire « Oh, les anciens croyaient que le monde était ceci, était ça ». C'est un langage poétique. Et le cosmos, c'est un ensemble merveilleux. C'est cette création, cette nature merveilleuse. Alors lisez le psaume 19. Dieu nous parle par ce grand livre de la création. Quand je contemple l'ouvrage de ses mains, comme au psaume 8, et puis au psaume 19, il y a ces versets merveilleux. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Leur trace apparaît sur toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde. Puis vous continuez sur les merveilles de la création, le grand livre de Dieu. Puis il est parlé plus loin, verset 7, alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe, quand Dieu créait toutes choses, et que tous les fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu, vous les avez trouvés au chapitre 1er, les anges, esprit administrateur, employé envers ceux qui doivent hériter du salut, tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Les anges ont été dans l'admiration de ce que Dieu a fait. Comme aussi, quand il a accompli la rédemption, vous les voyez aussi, où? Dans les chants de Bethléem, qui acclament le Rédempteur. Ils ont acclamé le Créateur et ils ont acclamé aussi celui qui s'est fait le Rédempteur du monde. Que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Maintenant, qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'élança et sortit de son sein maternel, Dieu avait dit que ça irait jusque là, mais pas plus loin. Qu'est-ce qui peut arrêter ainsi la mer? C'est donc Dieu qui domine sur toutes choses. Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Vous savez que quelqu'un commande au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre? Au chemin, saisir les bords de la terre. Vous savez, quand on fait le trajet de Montréal à Paris, alors on part dans la nuit, et puis 4 heures après, eh bien on voit l'aurore qui se lève, parce qu'il y a 6 heures de décalage, eh bien tout à coup vous voyez comment l'aurore saisit les bords de la terre, et puis comment tout s'illumine peu à peu. C'est tellement beau de se laisser enseigner, que ce soit dans les airs, que ce soit sur la terre, que ce soit sur la mer ou encore sous la mer. Partout le Seigneur sait nous parler. Verset 14. Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme parée d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière, et le bras qui se lève est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? C'est tous des gens
les amis de Job entendent aussi ce discours. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Selon ce que j'ai vu. Et alors, quand vous entendez Eliphaz dire, selon ce que j'ai vu, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu les portes de la mer? Tu as vu les portes de la mort? Est-ce que tu t'es promené au fond de l'abîme? Vous voyez qu'on n'a pas vu grand-chose. Déclare-le si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière? Voyez, les astronautes arrivent à s'arracher de la loi de la pesanteur, puis ils vont là-haut, mais ils ne connaissent pas le chemin de la lumière. Le chemin de la maison du Père, ils ne l'ont pas découvert. Le premier qui avait été là-haut, Gagarine, a dit qu'il avait regardé partout, puis il avait rencontré Dieu nulle part. Il y en a un autre dans la navette spatiale, enfin c'est un peu un joke ça, qui raconte que, ouais ça c'est au Québec évidemment, que quand ils montaient, ils avaient rencontré une dame qui descendait, puis qui leur demandait où était Saint Bruno. Parce que, à ce moment-là, il y avait une apparition, soi-disant, à Saint Bruno. Puis la pauvre Marie, elle cherchait son chemin. Alors comme les cosmonautes passaient, et que forcément, il doit y avoir des géographes par là, qui peuvent un peu lui indiquer le chemin. Vous voyez, on rit toujours de la parole, on s'en moque, on sait certaines choses. Mais on aime plutôt en rire que de la laisser faire son action dans nos cœurs. Où est le chemin qui conduit vers la lumière, verset 19, et les ténèbres ont-elles leur emplacement, pour que tu puisses les saisir à leurs limites et comprendre les sentiers de leur habitation? Tu le sais. Alors tu étais né. Et le nombre de tes jours est bien grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de la neige? Vous saviez qu'il y avait des réserves de neige? As-tu vu les réserves de la grêle? Quand la grêle tombera, une certaine grêle qui aura le poids d'un homme, ça sera des grêlons qui tuent, comme nous lisons dans l'Apocalypse. Ces réserves de grêle que j'ai mises de côté pour un temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre. Qu'est-ce que vous apprenez? Que sur les montagnes d'Israël, un jour, toute une armée, Gog, sera détruite. Pas par les armes des autres, ce n'est pas la bataille d'Armageddon, mais la bataille de Gog et Magog. Où est le chemin par où la lumière se divise? Et par où le vent d'Orient se répand sur la terre? Qui a ouvert un passage aux averses et tracé le chemin de l'éclair et du tonnerre pour faire pleuvoir sur la terre, sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a pas d'être humain, pour abreuver les lieux dévastés et ravagés et faire germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel sein maternel est sortie la glace? Qui a enfanté le givre du ciel? Les eaux s'immobilisent comme une pierre, et la surface de l'abîme se prend. Puis après, il nous parle des astres. Peux-tu nouer les liens des Pléiades? Ou dénouer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les constellations? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Mais c'est tellement beau. Est-ce que vous avez contemplé le ciel étoilé ici? Tu n'as pas le télescope, tu l'as? Faudra leur donner maintenant, on y arrive. faudra leur donner une leçon un soir, pour si c'est bon, que vous puissiez voir les étoiles avec le télescope. Connais-tu les lois du ciel? Connaissez-vous les lois du camp? Vrai de vrai? Vous savez qu'il y a 55 feux de forêt au Québec depuis hier ou avant-hier? Alors, connais-tu les lois du camp? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre et à son organisation? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuages pour que les torrents d'eau te recouvrent? Envoies-tu des éclairs pour qu'ils partent? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le secret du cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages? Vous êtes déjà amusé à compter les nuages? Et incliner les outres des cieux pour que la poussière se fige et que les modes de la terre se collent ensemble? Puis maintenant, chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Vous voyez, Dieu est partout, dans tous les domaines. Il se manifeste quand ils sont tapis dans leur tanière, quand ils demeurent dans les taillis, comme dans un repère. C'est tellement beau, le dernier verset. Qui prépare au corbeau sa pâture? Quand c'est petit, crie vers Dieu. Vous avez déjà vu une réunion de prière de petits des corbeaux? Ça fait... C'est le père corbeau. Les petits, une réunion de prière des petits du corbeau, c'est admirable. Vous ne trouvez pas? On se baigne dans la parole. Quand ils sont errants sans nourriture, nous nous sommes toujours inquiets. Mais votre Père céleste qui nourrit les oiseaux du ciel, qui revêt les lys des champs, comme dit Kierkegaard, les oiseaux n'ont pas de soucis. Les oiseaux n'ont pas de soucis. Puis nous, nous sommes toujours en souci. Les oiseaux savent qu'ils ont un père dans les cieux. Alors, souvenez-vous que vous avez un père et que Jésus a dit, ne vous mettez pas en souci. Vous valez beaucoup mieux que les oiseaux du ciel et beaucoup mieux que les lys des champs. Alors, voilà, il est 11h15, est-ce qu'on fait une pause ou bien est-ce que vous voulez qu'on laisse le chapitre 40 pour ce soir, 39, ou bien on fait un petit arrêt puis on continue encore le 39. Comment? Vous êtes d'accord, mais je n'oblige pas. Hein. Alors, on fait un arrêt, vous changez, nous n'allons pas trop nous arrêter parce que il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Mais je souligne que le Seigneur, qui a condescendu à parler à Job, ne lui répond pas sur ses questions, mais lui montre sa splendeur. Il lui donne un tableau de toutes ses œuvres. Et je crois que c'est de cela que vous devriez vous occuper. Au lieu de vous occuper de vos petites misères, de toutes vos poussières, qui paraissent des montagnes, puis vous ne voyez plus la grandeur de Dieu. Vous vous sentez tout seul, tout petit. Regardez sa grandeur. Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits? Oh, écoute, Seigneur, je ne suis pas intéressé par la naissance des bouquetins. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un bouquetin? C'est beau, mais mais vous les voyez surtout en Israël, quand on va par exemple au bord de la mer Morte et qu'on va à Ein Gedi. J'ai vu des combats de bouquetins sur le sommet d'une des montagnes de Ein Gedi, et vous savez, ils foncent, n'est-ce pas, les deux mâles pour avoir telle femelle, hein. Il y a un combat, et puis c'est celui qui est vainqueur qui aura la femelle. Ben oui, on apprend un tas de choses. Puis alors, vous êtes allé dans les Rocheuses, vous voyez sur les montagnes ces combats de bouquetins, là. C'est remarquable. Eh bien, Dieu s'occupe des bouquetins. Vous voyez qu'on peut être dans les Rocheuses, puis être aussi avec le Seigneur. On peut être en Israël, puis être aussi avec le Seigneur. Parce que lui, il est là avec les bouquetins. Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Oh! Mais vous voyez, pour ceux qui sont agriculteurs, par exemple, et que qui assistent une vache, quand elle met bas son veau, bien, il se dit, le Seigneur est là, hein, puisque il observe les biches quand elles mettent bas, il va m'aider aussi. Et vous avez vu Jocelyne dénommée, bien, le petit Maxime qui avait 8 ans, eh bien, il a dû assister, il était tout seul pour une vache qui faisait son veau. Ben, il n'a pas eu peur. Et il s'en est tiré. Elle vaut aussi. Vous voyez, ce sont des paroles qui sont touchantes. Elles se courbent, donnent le jour à leur progéniture. Vous voyez, même la position de la biche. Elles sont délivrées de leur douleur. Dieu est sensible au moment où il y a la délivrance. Alors combien plus pour une femme qui mourmont d'un enfant. Leurs petits prennent de la vigueur. Et vos enfants, le Seigneur voudrait aussi qu'ils prennent de la vigueur. Et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Voilà. Un enseignement. Il y a des parents qui veulent absolument garder leurs enfants, toujours. L'homme quittera son père et sa mère. Et il faut accepter cela. Qui a mis l'onagre, c'est un âne sauvage, en liberté? Et qui a dénoué les liens de l'âne sauvage? J'ai fait de la steppe son habitation, de la terre salée sa demeure. Qu'est-ce qui lui a donné ce territoire-là? C'est le Seigneur. Il se rit du tumulte de la ville. Il n'entend pas les cris d'un charretier, parce que ses confrères qui sont dans la ville, qu'est-ce qu'ils entendent, eux? Le cri du charretier, parce qu'ils sont attelés, n'est-ce pas? Mais il y en a qui sont en liberté, ailleurs que dans la ville. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, et il est à la recherche de tout ce qui est vert. Est-ce que vous êtes à la recherche de tout ce qui est vert? Le buffle désire-t-il être à ton service? Passe-t-il la nuit près de ta crèche? On est arrivé maintenant presque à dompter le buffle. J'en ai vu au Vietnam. Attaches-tu le buffle avec une corde pour qu'il trace un sillon? Bien, ça ne devait pas être, mais ça est maintenant. Freinera-t-il la herse derrière toi dans les vallons? Mettras-tu ta confiance en lui parce que sa force est grande? Lui abandonneras-tu le produit de ta peine? Peux-tu compter sur lui pour rentrer ta récolte et pour l'amasser dans ton air? Il fallait les dresser. Alors voilà pour le buffle. Mais l'homme arrive à ses fins. Tous les animaux, en quelque sorte, peuvent être domptés. Mais c'est pas leur nature pour certains. Alors vous domptez certains animaux. Même le lion, n'est-ce pas? Il arrive à être dompté. L'Écriture le dit, on arrive à dompter à peu près tous les animaux. Mais est-ce que ça change leur nature? Le dompteur qui réussit à se faire acclamer parce qu'il a mis la tête dans la gueule du lion. Comme il est gentil, ce lion. Puis un jour, le lion, il oublie, il s'oublie. Puis il ferme la gueule. Comprenez-vous? Alors on dit, mais c'est un méchant. Mais c'était sa nature. On est arrivé à l'empêcher de fermer la gueule pendant longtemps. Puis tout d'un coup, ben, sa nature revient. Vous n'avez pas la même nature, vous? Vous voyez, le Seigneur nous enseigne par les... On a toujours la même nature. On peut... Alors, si c'est par vos efforts, vous pouvez vous dresser, ne plus faire ceci, ne plus faire ça, mais tout à coup, la nature revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Vous voyez, c'est comme si Dieu vous donne... Mais c'est ça qui est beau. Parce que, vous voyez, il y a... alliance entre la nature, entre tout ce qu'on voit et ces textes. Puis après, verset 13, l'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Vous avez vu déjà des vols de cigogne? Je me souviens, j'en ai vu dans la vallée de Jisréel. J'étais avec un prêtre qui me disait, vous savez, mon frère, elles ont un vol lourd, elles viennent de loin. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais quand l'autruche abandonne ses œufs à terre, elle les laisse chauffer dans la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser. C'est ce que font certaines femmes. Une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de ses entrailles? Même celles-là oublieront. Quelles autruches! Elles oublient qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits. Comme s'il n'était pas à elle. Vous connaissez aussi des femmes qui ont été dures avec leurs petits? C'est le scandale du jour. Hein. Les enfants battus, comme si ces enfants n'étaient pas à eux. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien. Car Dieu l'a privée de sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se dresse et prend son élan, elle se rit du cheval et de son cavalier. Mais c'est vrai, hein, parce qu'elle a encore la possibilité de voler. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval? Voilà que Dieu s'occupe des chevaux. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Quand tu mets la main dans la crinière du cheval, tu dis... c'est l'œuvre de mon Créateur. Tu ne peux pas toucher une crinière de cheval sans penser à Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, au lieu de dire, mais Dieu n'est pas là, il est dans la crinière du cheval. Va à l'écurie si tu ne sens plus la présence de Dieu. Si tu es une écurie, ben va à l'écurie, puis mets ta main dans la crinière du cheval. Il est partout. C'est quel verset? 20. Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Vous avez déjà entendu un certain hennissement de cheval qui répand la terreur. Ah oui. Mais vous voyez, nos oreilles, qu'est-ce qu'elles écoutent? Seulement la télévision? Où tout semble déformé. Il piaffe dans le vallon et se réjouit de sa force. Il s'élance devant les armes. Quand on pense aux guerres de Napoléon, hein, il se rit de la peur. Il n'est pas terrifié. Il ne recule pas en face de l'épée. C'est quand même extraordinaire. Sur lui retentissent le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir au son de la trompette de Ed. Au son du corps. Quand le corps sonne, il crie. Ah, de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les clameurs. Est-ce par ton intelligence? Maintenant, voilà, on quitte le sol, hein, on a été avec les chevaux, maintenant, on va un peu plus haut. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Vous avez regardé le vol de l'épervier? Et qu'il étend ses ailes vers le midi. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Et là, alors, vous pourriez vous arrêter et faire toute une étude sur l'aigle, la vie de l'aigle, la vie de ses aiglons. Parce qu'il est dit que nos forces se renouvellent comme celles de l'aigle. Pourquoi place-t-il son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il demeure et passe la nuit, sur une dent de rocher comme une forteresse. De là, il épie sa proie. De loin, ses yeux l'aperçoivent. Vous voyez, Dieu lui a donné une vue extraordinaire. Ses petits boivent le sang, et là où sont les cadavres, il est là. Et ça vous rappelle une parole de Jésus, là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et on pense que c'est plutôt les vautours, là, littéralement un aigle, parce que l'aigle ne mange pas habituellement, il y a certains aigles, mais il ne mange pas la charogne. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors, réservons ça parce que on fera tout cela alors demain, toutes les questions de tous les chapitres, hein, que vous pouvez avoir, si c'est pas... Et puis, peut-être que c'est quand même l'heure pour, si vous voulez avoir une bonne heure pour aller à la... Oui? Ah ben oui, alors ça je voulais, mais on n'a pas tout le temps, mais je reprendrai ça ce soir, comme j'ai l'habitude, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment Dieu parle. Hein. Il parle une fois, deux fois, et on n'y prend pas garde, il y a différents moyens, mais comment il a parlé à Job, comment il a parlé à Moïse, comment il a parlé à d'autres hommes. Il n'emploie pas toujours le même mode de transmission, mais il parle. Qui? Oui? Sur à qui? Mais je ne l'ai pas avec moi. Attends, je lirai ça ce soir. Attends. Je n'ai pas toujours pris avec moi. Puis. Oui. Oui, mais alors ce serait toute une étude qu'on pourrait faire sur l'âme et l'esprit. Et ce qui se rapporte à l'âme, ce qui se rapporte à l'esprit, on aurait aussi le 12 de Job, verset 10. Lui dans la main duquel est l'âme de tout être vivant et l'esprit de toute chair d'homme. Les animaux n'ont pas l'esprit, mais ils ont une âme. Alors, c'est le verset 30. Oui. Tu dis bien 36? Oui, parce que, tu vois, selon les versions, il n'y a pas la même numérotation. Alors, c'est toujours un petit peu plus difficile. Je vais prendre dans Darby, hein. Qui a mis la sagesse dans les reins et qui donna l'intelligence à l'esprit. Et second a dit... Dans le cœur, oui. Vous voyez le verset 36, là, dans le français courant, c'est « Qui annonce à l'ibis que le Nil va monter ?»« Qui fait savoir au coq ?» que la pluie va venir. Alors, il y a une petite note. Les mots rendus par ibis et coq ne se retrouvent pas ailleurs en hébreu biblique. Ils ont donné lieu à des traductions diverses. Dans l'ancienne Égypte, l'ibis est censé prévoir les crues du Nil. Et dans tout l'ancien Proche-Orient, on attribuait au coq la faculté d'annoncer les pluies d'automne. C'est la sagesse et l'intelligence des animaux. Alors, je répondrai ce soir. Avant de nous séparer, ô Dieu, nous voulons te remercier de nous avoir donné, de pouvoir nous plonger dans ces merveilles de la création que tu nous décris toi-même, toi qui en es l'auteur, et d'avoir appris à nouveau que tu étais partout, alors que si souvent il nous semble que tu es loin de nous. Et tu es là, et nous passons sans nous en apercevoir. Réveille-nous, Seigneur Jésus, et que nous puissions être certains, en tout temps, au lieu de ta présence, pour ta seule gloire. Amen.